fiscales qui vont toucher jusqu'à 8 millions d'euros chacun cette année, hein, des nantis de l'ISF, hein, et j'en passe, hein, la privatisation des profits, hein, et de la mutualisation des risques et des pertes, ouais, ras-le-bol de la système, ça c'est sûr.
Monsieur Wauquiez, vous mesurez votre politique mutuelle. Et j'espère que vous n'allez pas passer en 2012. Sincèrement, j'espère. Et j'espère qu'un jour, monsieur Wauquiez, vous allez vous retrouver au RSA, ce qui m'étonnerait parce que vous avez dû mettre plein d'argent de côté. Pour vos vieux jours, les RSA, ils n'en ont pas de vieux jours devant eux, heureux. Donc continuez à taper sur la tête des pauvres. Que tout cela vous porte plein de chance, monsieur Wauquiez, dans votre vie, à renier ce qui se passe en France, c'est-à-dire la différence, une différence énorme. Allez, au revoir. Excusez-moi de cette émotion. Au revoir.
Bonjour là-bas. Mais il raconte quoi l'autre qui gagne 15 000 par mois, là? Il raconte quoi sur l'URSA, ce gars-là? Il sait même pas comment ça marche. Quand tu travailles et que tu as 300 euros de salaire et qu'on t'a donné misérablement 400 euros d'indemnité de RSA ou de RMI, mais on te les retire, ça ne s'ajoute pas. Ça ne s'ajoute pas. C'est-à-dire que tu as travaillé 300 euros et on te donne 100 euros de RSA pour pas que tu gagnes plus de ce qu'on t'a alloué. Donc faudrait qu'il arrête. Et je pense qu'un jour, ce monsieur, s'il se retrouve dans cette situation-là, bah, il pourra le vivre de près, de très près. Merci là-bas. C'était Arnaud.
Oui, bonjour, Daniel Marmé, c'est Nathalie Denis. En fait, j'appelle parce que je trouve que c'est dégueulasse que j'ai 400 et quelques euros, là, je suis en train de droit, et que je dois payer la taxe d'habitation, les impôts, le loyer, enfin bon, tout, et que j'arrive à rien payer, et que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, c'était pour ce coup de gueule. Voilà. Merci.
Bonjour. Hier, une de vos auditrices s'interrogeait sur le devenir des centrales nucléaires une fois qu'elles seraient arrêtées, en posant la question du démantèlement. Ça coûterait très cher alors que ça ne rapporterait plus d'argent, donc qui s'en occuperait? Mais la réponse est évidente. Grâce à M. Laurent Wauquiez, il suffit d'y envoyer les bénéficiaires du RSA. C'est tout bénef, au moins on ne les paye plus à rien faire. On les irradie un petit peu, donc on les empêche de se reproduire. Et puis éventuellement, on accélère aussi leur disparition, et faire disparaître et empêcher de se reproduire des gens qui votent mal. Avouez, elle n'est pas bonne mon idée?
Oui, bonjour, là c'est Stéphane du Loir-et-Cher, donc je vous appelle pour relater un événement qui s'est passé ce week-end à Blois. Voilà, donc à Blois, il faut savoir qu'il y a le musée de la résistance et de la déportation. Et samedi soir, il y avait une représentation théâtrale qui montrait donc la libération de Blois, avec des gens costumés qui portaient des armes que le musée leur avait gracieusement prêtées. Et puis, bien, ce spectacle a débarqué une voiture de la police avec les policiers donc en gilet pare-balles qui sont sortis pour confisquer les armes. Ça aurait débarqué en traction, ça aurait été un spectacle, voilà, un petit peu de mauvais goût sur la fin, mais bon, ça aurait été dans le spectacle. Mais là, ils ont débarqué avec la voiture moderne. Voilà, donc c'était pour vous relater cet événement. Voilà, la police qui a débarqué pour arrêter les résistants. Allez, salut.
Annonce pour les AMG de la région de Annecy. Ça risque de coincer grave dimanche au Glière. Covoiturage obligatoire. Les voitures non remplies seront arrêtées sur le trajet. On se donne donc rendez-vous place des Romains à Annecy dimanche 15 à 8h30. Plusieurs cars seront disponibles, inscription obligatoire sur le site citoyen au pluriel résistant au pluriel.fr sans accent. Sur la page d'accueil, cliquez sur car départ Annecy, puis inscription ici. Attention, la liste sera close jeudi soir. Donc je répète, rendez-vous dimanche 15 à 8h30 place des Romains à Annecy pour organiser le covoiturage et les trajets en car. Qu'on se le dise et répète.
Ils nous font chier avec les 30 ans de la victoire de Mitterrand, quoi. Parce que moi, j'ai 43 balais, et ceux qui ont voté Mitterrand, qui avaient 30 ans à l'époque, ils se sont bien gavés, ils se sont bien protégés, tout comme certains 68ards qui nous pètent les couilles maintenant et qui se permettent de faire de leçons de morale à la jeunesse. Donc, ils nous font chier avec l'anniversaire des 30 ans de l'élection de François Mitterrand. C'est vraiment un retour dans le passé. Alors que nous, on espère autre chose, un vrai changement, et un vrai.
Voilà. Mais inutile de débiter des grossièretés sur une antenne nationale. Le changement arrive dans, quoi, encore une année, et ça y est, et on verra sur l'écran de télévision, comme Tonton, il y a 30 ans, faire son apparition. DSK, DSK, la foule criera, DSK, DSK, ce sera un moment formidable. Alors, il y aura bien sûr encore quelques murmures de détracteurs, de jaloux, de tocards, d'aigris et d'assistés sans doute, mais on ne les entendra presque plus, alors qu'aujourd'hui, ils ont évidemment le beau rôle, vous les avez entendus, face à ces images tout ça parce que le futur président aurait une voiture, une Porsche, qui d'une valeur de 100 000 euros, alors que c'est absolument faux, c'est la voiture d'un ami à lui. L'enquête a été faite, un vieux copain qui s'appelle Ramzi Kiroum, un as de la com, qui est d'ailleurs classé 24e homme le plus influent de France, et qui travaille à la fois pour Euro RSCG, qui fait la pub pour DSK, et pour le groupe Lagardère, qui soutient DSK, avec entre autres des titres comme le JDD, Match, Elle, Europe 1, etc. Et alors là, c'est intéressant, monsieur Ramzi Kiroum a pour mission de donner de DSK l'image d'un homme de gauche. Alors ça, évidemment, c'est pas évident, et j'entends des ricanements de l'autre côté du transistor. Des ricanements qui font écho à ceux que l'on a entendus lors du procès de DSK, poursuivi devant le tribunal des condamnés d'avance, poursuivi par le CVMV, c'est-à-dire le cercle vélocipédiste et marxiste de Vincennes, le journal Fakir, la Ligue des savapétistes du Répondeur, les parasites associés du RSA et le tueur de cochons de la rue de Lancry. Et pour quelle raison DSK est-il poursuivi? Se sont demandés les vrais adeptes de la gauche de droite. Eh bien, ils sont venus massivement au théâtre de Jazet pour assister à ce procès, un grand moment de vérité et de justice en deux parties. Aujourd'hui, la première partie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chers amis de Neuchâtel, le repère de là-bas, si j'y suis, aura lieu ce mercredi 11 à 18h, comme d'habitude, au chauffage compris. Le thème de la discussion sera « Comment s'informer ?» Notre presse est-elle libre? Les autres médias sont-ils libres? Quel est le rôle de la publicité? Il y a de quoi discuter. Alors, je vous attends ce soir à partir de 18h. Merci à tous et à bientôt.
Bonjour Daniel Mermet, félicitations. Quelqu'un du sud-ouest ou quelqu'une plutôt. Je vais avoir 94 ans. Et j'écoute tous les jours, malgré les malheurs personnels, très, très, très grands malheurs auxquels, évidemment, je n'ai plus échappé. J'ai honte d'avoir bientôt 94 ans. Merci de vos émissions.
Voilà, la séance est ouverte et je demande à la force publique de m'informer si Monsieur DSK est prêt à comparaître.
Monsieur le Président, je dois vous informer que Monsieur DSK n'a pas répondu à nos convocations et que je dois constater son absence.
Donc, je commets Maître Langlier, huissier de justice, pour constater l'absence de l'accusé. Est-ce que la défense a quelque chose à dire, messieurs ?
S'il n'a pas été proprement convoqué, il ne sera pas présent. Et je n'ai pas vu les preuves de sa convocation. Donc, la défense s'en tiendra là pour le moment.
Donc, nous avons à juger Strauss, Kahn, Dominique, Gaston André, Didier Esca, né le 25 avril 1949 à Neuilly-sur-Seine, homme politique français, dont la presse française parle ainsi. La seule personnalité politique que plus de la moitié des Français jugent capable de changer les choses dans la tribune du 28 avril 2010. Dans l'émission « À vous de juger », pas seulement le banquier de la planète, il est aussi le médecin de l'économie mondiale. Il discute avec Barack Obama, fait pression sur Angela Merkel pour aider la Grèce. Pas de frontières pour DSK. Pour Le Point, un sauveur de pays en faillite. Pour L'Express, l'économiste Daniel Cohen le classe clairement à gauche. Pour Le Figaro, pour 2012, la gauche préfère Dominique Strauss-Kahn. Et pour Paris Match, ne se sent-il pas pousser des ailes de géant ? Strauss-Kahn, maître du monde. Et nous aussi, bien sûr, à France Inter, nous sommes des manches à air, et on le dit bien fort, DSK, c'est exquis. Et bien malgré ça, DSK est poursuivi par le CVMV, le Cercle Vélocipédiste et Marxiste de Vincennes, pour, je cite, « vol et détournement de valeurs de gauche avec usurpation de la mémoire des idéaux et des luttes socialistes. Privatisation à outrance ayant entraîné des destructions massives d'emplois et l'enrichissement de quelques nababs bien gras. Manipulation de l'opinion par le recours aux formes les plus cyniques de la communication et abus de confiance par le soutien des grands médias. Appauvrissement avec préméditation des peuples grecs, irlandais, portugais, espagnols par des prêts entraînant des baisses de salaire. Occupation de l'espace médiatique avec des histoires... des rapports inappropriés. Là, il n'en sera pas question du tout au cours de cette soirée. Nous laisserons tout ça à la presse de caniveau. Nous sommes trop respectueux de la vie privée et ça nous entraînerait sur la pente glissante de la gaudriole. D'ailleurs, les témoignages féminins recueillis lors de l'instruction ont apporté la preuve que la réputation de DSK, qui aime à se faire appeler lui-même la terreur des sommiers, est largement surfaite. Donc nous n'en parlerons pas, puisque tout cela est bien insignifiant, c'est pas grand-chose. Il y a d'autres chefs d'accusation, nous y reviendrons. Et nous allons tout de suite commencer par la question des 35 heures. Actuellement, la communication de M. DSK affirme qu'il est l'instigateur et même le créateur des 35 heures, ce qui est contesté par certains. Aussi, nous allons demander à M. Filoche Gérard de bien vouloir monter jusqu'à nous. Gérard Filoche est membre du bureau national du Parti Socialiste. Gérard Filoche, lors de l'instruction, vous avez déclaré « Si malheureusement DSK était candidat du Parti Socialiste, je voterai pour lui ». Alors on va vous demander un petit peu d'éclaircir déjà votre position avant de nous parler de l'affaire des 35 heures, ce que vous pouvez nous en dire, mon cher Gérard Filoche.
30 ans d'inspecteur du travail, tout corps plongé dans l'entreprise reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et tout corps à la direction du FMI doit sûrement recevoir une poussée égale au nombre de rentiers, de banquiers et de spéculateurs rencontrés. Hein. Ça nous oppose. Bien que socialiste, je sais que la gauche est très diverse. Il y a même une gauche un peu de droite. Ce que je veux, c'est que l'unité n'exclue personne, mais que ce soit pas la gauche de droite qui dirige. Je veux que ça se fasse sur un programme qui soit au cœur de la gauche. D'où la question, moi je dis en gros, je résume, hein, 35, 60, 1600, 20. 35 heures, 60 ans à taux plein, un SMIC à 1600 euros, et pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Je crois que c'est une question de distribution et de redistribution. Et sur cette voie, monsieur le Président, c'est ça que vous voulez que je dise, Je me suis effectivement heurté à mon camarade du Bureau national, Dominique Strauss-Kahn, sur la question des 35 heures, bien sûr. Alors, quand je lis dans la presse que c'est lui qui a inventé les 35 heures, ce qui me reste de cheveux m'en tombe. D'abord, c'était une revendication syndicale. Dans les années 70, c'était sur toutes les banderoles. Il s'agissait bien de diminuer la durée du travail. Et on ne peut pas faire face au chômage de masse sans réduire la durée du travail. Ensuite, c'était déjà dans le programme en 81 de François Mitterrand. On s'est arrêté à l'époque à 39 heures, payé 40. Et puis, il s'est revenu très lentement dans les années 93-94. À ce moment-là, la réduction du temps du travail, il y avait certains qui disaient « Oui, mais il faut baisser les hauts salaires en proportion. » Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas situer où étaient les hauts salaires. Alors, à l'époque, même un postier en fin de carrière risquait d'être dans les hauts salaires. Et une partie des socialistes, dont était Dominique Strauss-Kahn, n'était pas très chaud pour la réduction du temps de travail. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu un débat après 1993, 1994, 1995, pour savoir si on allait défendre les 35 heures. Moi, je me rappelle d'un débat avec Dominique Strauss-Kahn au Bourget, sur la même tribune, dans une fête du Parti Socialiste, où il y avait quand même des milliers de gens, où il était un acharné opposant aux 35 heures. Acharné. Et à tel point que la première campagne que fit Lionel Jospin, tout le monde l'a oublié, c'était la campagne présidentielle de 1995, il défendit les 37 heures. Et il a fallu que la gauche socialiste, au sein du Parti Socialiste, se batte. Oh, elle n'est pas si forte qu'on voudrait, hein. Elle ne fait qu'à peu près 20% des voix. Elle doit diriger 17 fédérations sur 100. Mais souvent, la presse ignore qu'il y a une vraie gauche socialiste qui se bat pour que le parti, avec toute la gauche, l'emporte contre cette saleté de politique de Sarkozy qui nous opprime depuis 5 ans. Mais la gauche socialiste avait, on est donc en 96, il y avait des conventions et on défendait les 35 heures sans perte de salaire. Oh, on a fait entre 17% et 33% des voix, mais contre Dominique Strauss-Kahn. Il était tout à fait opposé à ce choix. Il a fallu qu'on se batte beaucoup, beaucoup, et c'est quand Chirac a dissous l'Assemblée nationale en 97, que le soir, devant Anne Sinclair, à 7 sur 7, Lionel Jospin est intervenu et a dit « Je vais dans la campagne qui commence défendre les 35 heures sans perte de salaire ». On était tous devant notre poste, là, réjouis, on avait quand même marqué un point essentiel. Et d'ailleurs, si la gauche a gagné, moi j'en suis persuadé à ce moment-là, c'est parce qu'elle a mis au cœur de son programme les 35 heures sans perte de salaire. Et c'était très très net. Sauf qu'une fois que ça a été adopté, que la victoire a eu lieu, qu'est-ce qui s'y est opposé le plus ? Dominique Strauss-Kahn. Parce que, tout le monde s'en souvient pas, mais c'était le 10 octobre 1997 sur le parvis de Matignon, et le chef du SNPF de l'époque, Jean Gandois, a démissionné devant toutes les caméras, en disant « Je démissionne parce que j'ai été berné, ils vont vraiment faire les 35 heures par la loi. » Et il a dit « Je démissionne parce qu'il faut des tueurs à la tête du patronat. » Les deux tueurs, c'est sa phrase exacte, s'appelaient le baron Ernest-Antoine Seyer et Denis Kessler. Et ils ont bataillé pendant 3 ans pour empêcher que la loi se fasse. Mais Dominique Strauss-Kahn n'aidait pas non plus, hein. Le débat avait même lieu avec Martine Aubry, qui était obligée, elle n'avait pas été trop pour au début, mais elle était obligée de la mettre en application. Moi, je le dis tout de suite, hein, je suis une candidate de gauche au nom du Parti Socialiste, je suis pour Martine Aubry. Et je me contranche sur ce passé des 35 heures. Et qu'on dise que c'était une bonne chose, que c'est une loi avancée, que c'est une loi d'ordre public social, que c'est une loi qui permet parfaitement de répartir le travail si on la contourne pas, si on flexibilise pas. Or, tous les contournements, toutes les propositions de DSK ont été pour le flexibiliser ou contourner. Et donc, une partie de l'application des 35 heures a été mise en cause dans des conditions difficiles à la fin, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et pour lutter contre le chômage de masse, il faut réduire la durée du travail. On a 5 millions de chômeurs aujourd'hui. C'est le pire. Sarkozy est allé chercher le chômage avec les dents. Et c'est pour ça que DSK, messieurs, qui allait le défendre, là, vous allez avoir du travail à faire, parce qu'il n'est pas vraiment pour la réduction du temps de travail. En gros, il dit qu'il faut travailler plus, et donc, en gros, il dit qu'il faut diminuer les salaires. Enfin, tout ce que les peuples, les salariés, ne veulent pas.
Merci. Gérard Filoche a interpellé la défense. Maître Claire, Maître Daniel.
Il y a des questions.
Alors,
Donc, la première remarque, c'est qu'il nous a expliqué qu'il allait voter pour Martine Aubry. Je rappelle que devant l'Assemblée nationale, la représentation nationale, et ça, c'est consultable dans n'importe quel journal officiel, en 1992, Martine Aubry a expliqué doctement à la représentation nationale que les 35 heures étaient une aberration économique. Et que tant qu'elle serait ministre du Travail, il était inenvisageable que les 35 heures soient appliquées sous son autorité. Ceci pour dire d'ailleurs que une des forces du Parti Socialiste, dont vous êtes un des dignes représentants, et je vous en félicite, c'est que le Parti Socialiste français se caractérise par le fait qu'on est strauss-kahnien, on est aubryiste, on est hollandais. Il y a des partis où on est de gauche, on est de droite. En France, on est fabusien. Moi qui suis vieux militant, qu'il a été, qu'il est et le sera, on est tous, on a été, on sera socialiste. J'ai connu des poprénistes, j'ai connu des mermaziens. Et le mermazien s'est caractérisé par le fait qu'il était pour la rupture avec le capitaliste en 6 mois, alors que le popréniste était pour la rupture avec le capitaliste en 3 mois. Et donc au congrès de Valence, le grand débat entre le popréniste et le mermazien avait dominé jusqu'au moment où Robespierre avait annoncé que de toute façon on romprait surtout des têtes. Alors bon, donc Martine Aubry était contre les 35 heures et maintenant elle est pour. Donc j'ai un premier doute sur pourquoi ce serait DSK qui est changé et pas les autres. Alors la seule question que je poserais, c'est combien les 35 heures ont-elles créé d'emplois?
Entre 350 000 et 400 000 pour ce qui est de la réponse, mais je veux compléter ce que vous dites. Martine Aubry a été encore plus loin contre les 35 heures au début. Elle était tout à fait opposée. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le choix d'avenir, dans lequel elle le contestait. Elle est allée au congrès de la CFDT de Montpellier en 1994 en disant je vais me faire siffler parce que je vais m'opposer devant vous aux 35 heures. Et ensuite, quand il y a eu le choix, elle a été nommée pour faire le boulot, elle a fait le job. Et quand elle a fait le job, elle l'a fait en se heurtant à Dominique Strauss-Kahn. Parce que moi qui voyais les choses d'un petit peu près à cette époque-là, je voyais bien que quand il s'agissait de serrer les cordons de la bourse, et quand il s'agissait d'aller beaucoup plus lentement, même celle qui n'était pas convaincue au début essayait de faire honnêtement les 35 heures par une loi, et l'un des obstacles, à Bercy, et ben c'était Dominique Strauss-Kahn.
Merci, Gérard Filoche. On l'avait cru bien faire en demandant à un socialiste de venir défendre un socialiste. On va continuer avec les privatisations. Nous refusons la privatisation des services publics et leur transformation en objet de profit. Ainsi parlait la gauche plurielle par la bouche de Lionel Jospin. Or, monsieur DSK est devenu, selon ce qui nous a été dit lors de l'instruction, le plus grand privatiseur, DSK, champion de la privatisation. On va demander à monsieur Jacques Cossard de nous rejoindre, le voici. Économiste du développement, secrétaire général du Conseil scientifique d'attaque. Deux questions à monsieur Jacques Cossard. Dominique Strauss-Kahn est-il le champion de la privatisation? Et si c'est vrai, est-ce que vous pourrez nous faire un bilan bref de ces privatisations? Vous avez la parole.
Vous me demandiez si les privatisations étaient un succès. Bien entendu, toutes les privatisations, à peu près toutes les privatisations organisées par Dominique Strauss-Kahn sont un succès. Pour les propriétaires du capital, bien entendu, puisque c'était l'objet. Mais un vaste désastre pour la population, les citoyens, et pour les services publics qui sont précisément au service des citoyens.
Mais qui a le plus privatisé, de la gauche ou de la droite, monsieur Cossard?
J'y viens. Vous me demandez, est-ce que c'est le plus grand privatiseur? Non, parce qu'il n'est pas tout seul au sein de l'union de la gauche qui a privatisé, je vais y revenir à l'instant, mais c'est lui le plus grand instigateur, et la majorité des privatisations qui ont été organisées sous le gouvernement Jospin, c'est précisément jusqu'en 2000, c'est-à-dire au moment où Dominique Strauss-Kahn, DSK, c'est plus élégant, je trouve, hein, quand on peut arguer d'un sigle en 3 lettres, je crois qu'on confine à l'élégance. Eh bien, DSK a été celui qui a organisé le grand prêtre des privatisations jusqu'à la fin du gouvernement Jospin. Alors, est-ce que la gauche plurielle a été le plus grand privatiseur de la planète France? Alors, pas tout à fait. Alors, il se trouve que 3 gouvernements de droite entre 1986 et 1997, pardon, c'est-à-dire pendant 11 ans, 3 gouvernements de droite ont vendu à des propriétaires du capital pour 36 milliards d'euros en euros courants, bien entendu. Tandis que le gouvernement de M. Jospin, sous l'instigation de Dominique Strauss-Kahn, n'en a vendu que pour 31 milliards, mais en 5 années seulement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est le plus grand ou je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est incontestablement un fervent privatiseur, d'abord avec les banques, dans l'industrie et dans un certain nombre d'autres secteurs. Vous allez me dire, est-ce que Dominique Strauss-Kahn est un criminel ? Certainement pas. Il n'est pas un criminel. Quand on ouvre, comme il l'a fait, le capital de France Télécom, capital public au capital privé, on n'est pas pour autant un criminel. Voilà, Monsieur le Président.
Merci beaucoup des observations. La Défense, oui, Maître Christophe Clair.
Quelques brèves observations sur les privatisations. Alors, je comprends ce que vous dites. À partir du moment où les entreprises sont privées, elles sont là pour faire du profit et vous préféreriez qu'elles soient publiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que quand la ressource financière en France est aujourd'hui rare, il y a peut-être mieux à faire que de dépenser l'argent pour nationaliser des entreprises qui, au fond, sont en général relèvent du secteur privé. Les banques souvent relèvent du secteur privé dans le monde, les producteurs industriels. Jusqu'où doit-on aller à utiliser cette ressource rare ? Moi, je préfère qu'on utilise l'argent pour l'école, pour les hôpitaux, pour les services publics au sens propre. Alors, est-ce que c'est vraiment le combat d'aujourd'hui que de revenir sur ces privatisations ? J'en suis pas sûr. Deuxième point, sur les privatisations propres à Dominique Strauss-Kahn, vous n'avez pas dit, mais je pense que c'est un oubli. D'abord qu'il y a certaines sociétés qui, quand elles étaient nationales, n'ont pas été un grand succès. Je pense au Crédit Lyonnais, par exemple. Mais dans le processus de privatisation, tout n'a pas été donné, finalement, au privé. Le terme est un petit peu impropre. C'est des ouvertures de capital. Par exemple, je pense à un certain nombre de groupes qui ont été donnés à des mutuelles. C'est quand même pas inintéressant. Crédit Lyonnais adossé au Crédit Agricole, mutuel. CIC adossé au Crédit Mutuel, comme son nom l'indique. Le GAN se retrouve chez Groupama. Donc dans ce processus-là, bon, bah, y a quand même chez Dominique Strauss-Kahn une volonté d'aller sur une forme alternative de propriété.
Merci beaucoup. Alors on a pu, au début de cette audience, évoquer le soutien des médias à M. DSK, le soutien enthousiaste de la plupart des médias à la candidature DSK. Comment expliquer cette unanimité de gauche à droite ? On va demander à M. Philippe Cohen, qui est journaliste, de venir nous éclairer sur DSK et les médias. Merci Philippe Cohen. Vous avez écrit que Cohn-Bendit, Sarkozy, Besancenot étaient eux aussi des candidats des médias. Je vous remercie beaucoup, M. Cohen, de m'avoir écrit les questions que je dois vous poser. C'est assez rare qu'un témoin donne au président les questions qu'il doit poser, mais nous avons tous pour principe ici de faire avancer la justice et vous envoyer des formes nouvelles avec des témoins comme M. Cohen. On vous écoute.
Je vous fais remarquer quand même. J'ai peut-être écrit les questions.
Oui, vous avez écrit les réponses
aussi.
Mais
la première, vous venez de me sauver la mise, puisque la première était très vache, puisqu'elle disait que Nicolas Sarkozy, Olivier Besancenot, et le premier d'ailleurs, Cohn-Bendit, je m'en souviens, ont été des candidats des médias. Donc ça montre simplement la volatilité du métier que j'exerce et le fait qu'on est obligé de recourir souvent aux mêmes formules pour désigner des phénomènes qui sont parfois un peu différents. Donc vous me demandez si Dominique Strauss-Kahn est un candidat des médias.
Et votre réponse est oui et non.
Ma réponse est oui et non.
Et je dois vous dire, c'est une réponse à la Alain Duhamel.
Bah oui,
c'est ça. Et vous
bah
devez
oui, parce
et
que
là vous devez me dire, mais oui, mais la situation a changé.
Non, c'est moi qui dis ça.
C'est ça, c'est moi qui dis ça. Mais la situation a changé.
Effectivement.
Voilà. Expliquez-vous, dis-je.
Non,
expliquez-vous.
La question, elle est moins drôle et peut-être plus importante qu'il n'y paraît à première vue, parce que si on prend les choses dans l'ordre, parlons des groupes de presse. Strauss-Kahn a un allié de poids, disons, au premier rang, c'est le groupe Lagardère. Alors, c'est un peu étonnant parce que, à la base, disons que la tradition familiale de la famille Lagardère, c'est plutôt une tradition de droite. C'est-à-dire que le métier premier de Lagardère, ça a été quand même la vente d'armement. C'est un métier qui l'a poussé à établir des très bonnes relations avec la droite française pendant des dizaines d'années. Sauf qu'il y a eu 81. Et en 81, à la surprise générale, Jean-Luc Lagardère, à l'époque, qui était le patron du groupe Lagardère, eh bien, a réussi à s'adapter parfaitement à la situation et finalement à continuer son petit système qui consiste d'un côté, je profite des commandes d'armement de l'État, et de l'autre côté, j'ai un certain nombre de médias qui sont capables, le Journal du Dimanche, Paris Match, à cette époque, il y avait aussi la télévision, il y a Europe 1, évidemment, donc une puissance de feu médiatique qui fait que les gouvernements, même de gauche, ont plutôt intérêt à aménager de bonnes relations avec le groupe Lagardère. Lagardère a toujours su jouer sur les deux tableaux. D'ailleurs, on le voit dans l'organigramme. Par exemple, dans l'organigramme du groupe Lagardère, il y a un moment donné, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais je pense que ça doit être encore le cas, il y a d'un côté Frédéric Bredin, qui est une dirigeante du Parti socialiste, et de l'autre, Anne-Marie Couder, qui était une dirigeante du RPR chiracienne. Donc aujourd'hui, la chose est très bien incarnée par quelqu'un qui s'appelle Ramzi Kirun, qui a la particularité d'être à la fois communicant et salarié du groupe Lagardère, et à la fois communicant de Dominique Strauss-Kahn et du FMI. Donc ce qui fait que quand il prend une décision, on ne sait pas toujours si c'est pour défendre le FMI ou pour défendre le groupe Lagardère ou les deux à la fois, parce que souvent c'est convergent. Ensuite, il y a d'autres soutiens. Il y a d'autres soutiens dans les médias. Je pense d'abord à au Monde. Vous savez que Le Monde a été racheté il n'y a pas très longtemps par le trio dit BNP, comme Berger, Pigasse. Niel et Pigasse, excusez-moi, oui, il y avait Niel au plus, c'est d'ailleurs le plus important et le plus riche, qui est au milieu des trois. Donc ce groupe BNP, il y a donc Pigasse comme Mathieu Pigasse, et Mathieu Pigasse était un membre du cabinet de Strauss-Kahn et un très proche quand il était ministre de l'économie et des finances. Donc ça, c'est aussi un appui de poids du côté groupe de presse. Après, il y a les appuis, disons, je dirais, qui sont moins d'ordre économique que d'ordre idéologique ou politique. L'Observateur et Laurent Geoffrin lui est tout acquis. Barbier de l'Extrême ce sera en pamoison. Sa mission sera, lui, d'alerter, de mobiliser, je pense, un électorat de centre-droit pour l'amener à rejoindre Strauss-Kahn. On aura aussi, évidemment, au grand complet, l'équipe du grand journal de Canal+, qui sera toute avec Strauss-Kahn. Et puis même, on aura, je pense, François-Olivier Gisbert, parce que si on le titillait un peu, François-Olivier Gisbert, au fond, avouerait que Dominique Strauss-Kahn est sans doute le meilleur candidat de la droite pour 2012.
N'oubliez-vous pas Libération ?
Ah oui.
L'observation du procureur Mordillat.
Bah oui, alors si Le Monde soutient Strauss-Kahn, Libération sera embêté de soutenir Strauss-Kahn. Donc ils essaieront peut-être de regarder du côté d'Hollande, on ne sait pas. C'est ce genre de choses qui risquent de se passer dans les mois qui viennent. Finalement, il y a...
Oui, finalement.
Finalement.
En clair.
C'est le soutien de quelqu'un qui s'appelle Stéphane Fuchs. C'est un des grands Manitou de
Euro-RSCG.
Euro-RSCG, oui, voilà. Il conseille Strauss-Kahn depuis des années. Alors, il le dit pas trop fort parce que une des dernières fois qu'il était conseiller, c'était en 2006 et ça a donné un résultat, disons, mitigé, c'est-à-dire la victoire sans appel de Ségolène Royal pour la candidature à la présidentielle de 2007. Il a ensuite managé avec succès une autre campagne, moins publique celle-là, de Strauss-Kahn. C'est la campagne victorieuse menée pour la conquête du FMI, mais il y a moins d'électeurs. C'était un peu différent comme type de campagne, mais enfin, c'est quand même Stéphane Fuchs aussi qui a managé cette campagne, qui est pas loin en plus de Stéphane Fuchs. Il y a le groupe Bolloré. Et le groupe Bolloré, c'est un groupe média plus important, avec chaîne de télévision, quotidien gratuit, etc., etc. Bolloré, c'est aussi évidemment un grand pote de Sarkozy, mais comme Lagardère, je pense qu'il sera passé à autre chose si le besoin s'en fait sentir. Côté intello, alors là, c'est le grand chelem. Parce que je me suis laissé dire que DSK pouvait avoir le soutien à la fois de Bernard-Henri Lévy et de Stéphane Hessel. Alors là, vous deviez me dire, et les autres ?
Et les autres, oui, dis-je.
Et là, je devais répondre, Il n'y a plus que deux intellectuels, en fait, en France aujourd'hui, Stéphane Hessel et Bernard Lévy. Il faut bien que vous mettiez ça dans la tête.
Voilà. Et les journalistes, alors, monsieur Philippe Cohen, soutiennent-ils DSK ?
Alors, là, je répondrais que DSK aurait eu un soutien unanime des journalistes à l'époque de la pensée unique. Quand il y avait, vous savez, Serge Julie et Philippe Alexandre qui prenaient la poire avec Christine Ockrent. À cette époque-là, je pense que tout le monde aurait été strauss-kahnien. Maintenant, c'est un peu plus compliqué.
Est-ce que l'accusation a des observations à faire ? Non. L'accusation ? La défense, pardon.
La défense.
D'autres observations ? Non.
Juste une toute... Oui, il n'a pas parlé de Radio France. Et juste une toute dernière observation, il me semble que quand la gauche s'est intéressée aux médias dans les années 80, elle avait trouvé un homme qui était un homme de gauche pour faire un média nouveau, qui était la 5. Cet homme s'appelait Berlusconi. Ce qui prouve que, vous savez, les hommes politiques de gauche et les médias, ils ont intérêt à être prudents. Et donc je pense que DSK saura se montrer prudent.
On a demandé... dans l'assistance, si vous avez des observations à faire sur les positions qui pourraient être prises par Radio France, par la présidente de Radio France ou la direction de France Inter vis-à-vis de M. Strauss-Kahn, mais je pense que vous n'avez pas de compétences particulières. Donc je vais vous remercier. Merci. Je voudrais remercier ceux que nous avons sollicités, des très grandes personnalités politiques, des think tanks et autres, qui ont refusé de venir, comme si nous leur faisions peur, ce qui nous a donné beaucoup d'importance. On se dit, tiens, on fait peur, on est intimidant, on est important. Et je voudrais donc les remercier de leur absence. Je voudrais maintenant appeler Monsieur Vincent Bolloré.
Monsieur Bolloré.
Bien. Monsieur Lindsay Owen-Jones, l'ancien PDG de L'Oréal, est-il là ? Non. Bien. Monsieur Francis Maire, ancien PDG d'Usinor. Peut-être qu'il est en train de dîner avec monsieur Bolloré.
Le procureur d'Amiens a quelques remarques à formuler.
Oui. Là, on voit qu'il y a beaucoup de témoins qui se sont désistés. Hein, donc, on peut en dresser la liste. Il y a Didier Pinault-Valenciennes, ancien PDG de Schneider, Vincent Bolloré, Jean Gandois, ancien PDG de Péchinet, ancien patron des patrons, Monsieur Louis Schelzer, Monsieur Jean-René Fourtou. Il y a même des morts qui se sont désistés, comme François Michelin. Donc, au niveau de l'accusation, on est un petit peu embêté parce qu'on pensait que c'était vraiment essentiel que des gens comme ça soient là.
Enfin, oui, on les regrette beaucoup, oui. Ouais. Et bien que ça soit la période de Pâques, nous espérons peut-être la résurrection de Monsieur François Michelin.
Comme je suis stagiaire, je travaille un petit peu, c'est toujours comme ça.
Bien entendu. C'est... Allez-y, tentez votre chance, allez.
C'est comme partout, hein, c'est le stagiaire qui fait un peu le boulot, quoi.
C'est une justice moderne, écoutez. Alors, allez-y, faites ça à l'ancienne. Regardez Fouquier-Tinville, ça allait beaucoup plus vite, la justice.
J'ai lu là le livre Les vies cachées de Dominique Strauss-Kahn. Il y a une scène, un petit matin de février 1993. On voit tous les personnages que je viens de vous citer, là, tous, tout le CAC 40, en fait, 35 patrons au total, qui, ce petit matin de février 1993, descendent de leur voiture avec chauffeur et montent tous, à ce moment-là, au siège de Publicis, et à la demande de leur ministre à l'époque, leur ministre qui est M. Dominique Strauss-Kahn, et qui leur a demandé de verser 200 000 francs à chacun. Il y en a un qui a trouvé que c'était un peu du racket, M. Calvé, oui, de Peugeot. Il a dit, moi je trouve pas ça correct, je donnerai pas les 200 000 francs. Mais tous les autres, ils ont donné, ils ont dit oui, c'est bien, et c'est pour quoi faire ? C'est pour fonder le cercle de l'industrie. M. Dominique Strauss-Kahn, il est encore ministre, mais il sait que ça va pas durer longtemps parce qu'il y a les élections qui arrivent. 1993, ça va être une débâcle terrible pour la gauche. Et bon, il faut préparer l'avenir. En tout cas, son avenir, il faut le préparer à ce moment-là. Et donc, comme il a beaucoup voyagé en tant que ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, il a beaucoup pris l'avion avec le patron de LVMH, le patron d'EDF, Monsieur Lévy, le patron de Renault. Il s'est dit, tiens, je vais monter un lobby à Bruxelles. Donc à ce moment-là, chaque patron est venu, a donné 200 000 francs et l'a aidé un petit peu à monter sa petite entreprise. J'ai recherché ça aussi, vous permettez ?
Oui. Je vous en prie, mais vous n'avez pas bien cité le titre qu'il s'était donné.
Ah ben il était président général adjoint. Et là, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Eh ben, à partir de septembre 1993, tous les deux mois, il y a une vingtaine de PDG qui se retrouvent pour dîner autour de l'ancien ministre. Donc, il y a d'anciens commissaires européens qui viennent, des commissaires européens en exercice, le président de l'Organisation mondiale du commerce, celui de la Commission européenne. En tant qu'ancien ministre, il a quand même un bon carnet d'adresses qui met au service du patronat à ce moment-là, et ce qui permet à l'époque de repousser une première taxe sur le CO2 qui allait être imposée au niveau de l'Union européenne grâce à ce travail d'entremise. Bon, il y a d'autres directives, notamment sur l'énergie en matière d'EDF. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui gagne DSK dans tout ça. C'est ça que vous me demandez, Monsieur le Président.
Absolument. Qu'est-ce qui gagne dans tout ça?
Je suis stagiaire, je suis débutant, je m'excuse, j'ai pas produit mes questions à l'avance. Bon. Alors, Monsieur Raymond Lévy, donc ancien patron de Renault, dit on lui payait une secrétaire, un chauffeur et un téléphone. Donc, vous voyez, ça reste modeste. Monsieur Bertrand Collomb, donc le patron des ciments Lafarge, dit il est sûr que son travail au cercle de l'industrie a contribué à asseoir sa popularité parmi les patrons. Mais bon, donc ça, c'est du bénévolat, si vous voulez, ça. C'est son bénévolat. Mais à côté de ça, il fonde DSK Consultant. C'est marrant parce qu'on a déjà fait un procès ici, c'était Bernard Kouchner, c'était BK Consultant.
BK.
Donc là, il fonde DSK Consultant en septembre 93, au même moment, avec sa femme, sa mère, sa fille, sa sœur, son frère. Tout le monde est au capital de cette société anonyme, parce que là, c'est plus... Là, on paye. Là, Alcatel paye 2 millions de francs pour les services de Monsieur Dominique Strauss-Kahn. EDF paye 1,5 million de francs. La COGEMA donc, paye 600 000 francs, la SOFRES paye 500 000 francs, et plus tard, il y aura la MNEF qui payera, elle, 603 000 francs. Alors là, je tiens à dire tout de suite, il n'y a rien d'illégal, il y a une justice beaucoup moins sérieuse que la nôtre qui a rendu tout ça, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Maintenant, est-ce que, pour un homme de gauche, ce rapport avec le patronat peut poser question? Et il explique, il fallait bien connaître l'avis des entreprises, vous voyez?
Ben voilà. C'est comme vous, il étudie les dossiers, voilà.
Voilà. Il aurait pu, enfin, comme il était avocat, il aurait pu aller au tribunal des prud'hommes et défendre des salariés, mais il n'y a pas pensé. Il aurait pu devenir aider, en tant qu'avocat toujours, les cabinets Syndex ou Secafi Alpha, qui sont consultants, mais auprès des syndicats quand il y a une fermeture d'entreprise, tout ça. Mais c'est pareil, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il faut dire que l'échec, il n'y aurait peut-être pas eu 5 ou 6 zéros derrière, quoi. Hein. Mais enfin bon, c'est des petits détails comme ça. Alors, ensuite... Bon, on peut dire, ben voilà, c'est une activité privée, hein, ça ne nous regarde pas, au fond. En 1997, le jour où il y a le lendemain de la victoire de la gauche, plurielle, donc le lundi 2 juin 1997, Monsieur Dominique Strauss-Kahn fait les 100 pas devant une multinationale, Capgemini, à l'époque. Et c'est là-bas, à l'intérieur de Capgemini, dont son ancien directeur de cabinet est devenu le PDG, c'est là-bas, au sein de Capgemini, qu'il va décider de former son cabinet. Quels vont être ses axes de bataille, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ben, il décide d'aller faire ça au sein, de réfléchir à tout ça au sein d'une multinationale. Alors, c'est pour ça que on regrette beaucoup l'absence de tous ces BDG, parce que je pense qu'on peut pas comprendre la suite, c'est-à-dire les lois sur les stock options, sur les privatisations en série, les retraites, ce qu'il fait sur la retraite, la sécurité sociale et ainsi de suite, si on n'a pas compris cette proximité permanente pendant toutes ces années avec le patronat. Alors on citait tout à l'heure Monsieur Ramzi Kiroun, qui non seulement est porte-parole du groupe Lagardère, mais qui en est aussi l'un des membres du comité exécutif, qui est aussi le porte-parole de DSK. Bon, dans tout ça, il n'y a rien d'illégal. Mais on peut se demander si Jean Jaurès aurait partagé son assistant parlementaire avec le baron de Wendel.
Merci. La défense a-t-elle quelque chose de bref à ajouter?
Je n'y comprends plus rien.
Ah,
alors je n'y comprends plus rien. Voilà. Alors,
c'est pour
Dominique.
Ça que vous êtes avocat.
Monsieur le procureur, je vous laisse la responsabilité de ces propos. Mais enfin. Non, là, je n'y comprends rien. Enfin, voilà un homme qui réunit des dizaines de grands patrons, là, ceux qui gagnent bien leur vie, là, ceux qui en profitent un maximum. Et il leur prend à chacun 200 000 francs. À chacun, il leur prend 200 000. Après, il prend leurs entreprises. Il leur dit, ça suffit pas, partez pas, on revient et on a des millions. Et il reprend des millions aux grandes entreprises. Plein de millions, hein, pour lui. Pour réfléchir, pour, voilà, faire des tas de choses. Alors, quand il fait des cadeaux aux riches, vous râlez. Quand il fait payer les riches, vous râlez, je n'y comprends plus rien.
Merci. Merci, merci, merci. Si DSK est le candidat favori des médias, il est moins admiré et moins espéré dans les milieux populaires. Et on se demande bien pourquoi. Il a une jolie femme, il parle anglais, il parle allemand, donc il devrait plaire au peuple. Et en plus, c'est un coureur de jupons, et vous savez, comme le peuple aime bien la gaudriole. D'après ce que je crois comprendre. Donc, nous avons fait appel à mademoiselle Marie-France de la Rochefordière, qui est conseillère en communication, pour qu'elle témoigne des difficultés rencontrées pour faire que Dominique Strauss-Kahn séduise les milieux populaires.
Bonjour, donc je m'appelle Marie-France de la Rochefordière et je suis conseillère en communication chez DSK, club président des prolétaires en 2012. Et DSK, il n'est vraiment pas la cote dans les milieux populaires, contrairement à ce que disent nos derniers sondages, d'abord parce que DSK, il est riche. En 1991, il s'est marié avec Anne Sinclair, la plus belle journaliste de France d'abord, mais aussi la plus riche. Et puis, directeur du FMI, ça rapporte $500 000 par an. En euros, ça fait à peu près 315 000 euros par an ou 31 032,85 euros par mois. Ça fait donc 28 SMIC par mois et ça fait 46 fois le salaire d'un ouvrier grec. Très, très difficile de faire passer Dominique auprès des milieux populaires. Très, très difficile. Et puis, attendez, mon Dominique, il a aussi non pas une, mais plusieurs maisons. Une à Washington, où il habite actuellement avec sa femme Anne Sinclair. Et figurez-vous que c'est une maison absolument magnifique, dans un quartier très chic, avec vue sur le fleuve Potomac. Eh bien voilà, les Dominiques, ils l'ont acheté 2,9 millions d'euros, la baraque. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi un très bel appartement, place des Vosges à Paris. Et puis surtout, il a un merveilleux riad à Marrakech, acheté il y a 5 ans par Anne Sinclair. Et c'est d'ailleurs là que le président du FMI et sa charmante épouse ont fêté la Saint-Sylvestre cette année, selon l'Express du 13 janvier 2011. Et quelle riade ! Cassandre, l'auteur mystère du livre DSK, Les secrets d'un présidentiable, décrit le riad, situé au cœur de la Palmeraie, avec une vue à 180 degrés, entre la classe et la médina. À l'entrée, il y a un chemin bordé d'oliviers sur presque 1 km. Le parc est immense, ceint de hauts murs en pisé, invisible de l'extérieur. Le riad se découvre au dernier moment, rouge et très sobre dans ses lignes, d'une grande élégance. Le premier salon est éclairé de baies vitrées monumentales, peu de meubles, des plantes et surtout une piscine intérieure de dimension olympique, dit-elle. Cassandre décrit aussi deux commodes qui lui avaient tapé dans l'œil, recouvertes d'argent, elles étincelaient de mille feux et semblaient avoir été coulées sur place de part et d'autre de l'entrée. Un vrai palais des mille et une nuits. Sauf qu'en pleine crise du logement, et alors que 2 millions de logements ne sont pas occupés en France, selon l'INSEE, ça fait mal. C'est très très difficile, on vous dit très difficile de faire passer la pilule. Et puis les clubs sélects qu'ils fréquentent, le siècle, le club Vauban ou la Fondation Saint-Simon. Voilà, alors vraiment c'est difficile de faire avaler au milieu populaire que Dominique est le président qu'il leur faut.
Merci beaucoup. La Défense a-t-elle quelque chose à ajouter sur ce problème?
Juste une remarque sur le fait d'abord que DSK n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il s'est fait lui-même. Après tout, on a le droit d'avoir du talent. Et puis, je ferai une autre remarque. Alors, je vais citer une anecdote. C'est que Anatole France était un des fondateurs du Parti communiste. Et chaque fois qu'il croisait quelqu'un, comme il avait fait lui-même fortune, on lui disait « Mais de quel droit parlez-vous au nom des pauvres, vous qui n'êtes pas pauvres ?» Je ne lutte pas contre la pauvreté en étant pauvre moi-même, disait-il. Je lutte contre la pauvreté en faisant en sorte que le Parti communiste gagne. Et donc DSK lutte contre la pauvreté en faisant en sorte que la gauche gagne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup. Je vois que dans le fond de la salle, comme au fond du transistor, beaucoup d'entre vous restent dubitatifs. Après, pourtant, ces longs témoignages, ces plaidoiries, ces questions et ces réponses, oui ou non, DSK est-il de gauche? La question reste entière pour un certain nombre d'entre vous. Alors, pour vous éclairer et éclairer le tribunal, on va demander à Frédéric Pagès de bien vouloir nous rejoindre, Frédéric Pagès, le docteur Frédéric Pagès, expert et psychiatre.
Monsieur le Président, merci à votre demande. J'ai donc rencontré Dominique Strauss-Kahn à 5 reprises entre décembre 2010 et janvier 2011. Je dois dire que c'est un patient extrêmement coopératif. Dès la première séance, je lui ai demandé quel type de psychothérapie il souhaitait pratiquer avec moi, allongé ou en face à face. Finalement, j'ai opté pour le face à face, le face to face, comme il a dit lui-même, dans un anglais impeccable, car mon client est très doué pour les langues étrangères. Il parle 182 langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'islandais moderne, l'islandais antique. Il peut vous accorder un prêt bancaire en hongrois, swahili, grec, basque, morvandio, serbo-croate et même techno-croate. Alors, sans trahir le secret professionnel, je peux vous dire, Monsieur le Président, que Dominique Strauss-Kahn est venu me consulter pour une perte de repères entre la droite et la gauche. J'ai donc examiné son cerveau et j'ai découvert une chose étonnante. Au lieu d'avoir deux hémisphères, mon client en a trois. Le gauche, le droit et le centre-gauche. C'est très étonnant. Et cette anomalie lui pose des problèmes de vision. Par exemple, cette paupière tombante. Alors, il m'en a parlé en toute franchise. À cause de cette paupière gauche qui tombe tout le temps, la droite a l'impression que je lui fais sans arrêt des clins d'œil. Et il en souffre, Monsieur le Président. Il a eu donc recours, comme tant d'hommes politiques, et de femmes politiques d'ailleurs, à la chirurgie esthétique, et sa paupière, miracle, s'est relevée. Ce qui a provoqué des tensions dans son couple. Il m'a confié, à mesure que ma paupière se relève, mon épouse est obligée de fermer les yeux. Malgré cette opération qui a été un succès, néanmoins, DSK garde des problèmes de repères dans l'espace. Il m'a avoué que pendant de longues années, il s'était cru maire de Sarcelles alors qu'il habitait Neuilly-sur-Seine. C'est un homme modeste, par ailleurs, qui n'aime pas le bling-bling. Par exemple, il n'a que deux décorations que j'ai trouvées sur Internet. Grand cordon de l'ordre du Wissam Alaouit, décerné par le roi du Maroc, Mohamed VI à l'époque, et grand officier de l'ordre de la République, décerné par le président tunisien Ben Ali. Et il ne s'en vante pas, car il est modeste. Par ailleurs, il ne souffre d'aucun complexe, et je l'ai donc classé en tant que psychiatre dans la catégorie de gauche décomplexée. Quand on lui parle du bar du Fouquet, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, il n'a aucune réaction d'agressivité, au contraire. Il m'a dit qu'il comptait fêter sa victoire dans le même endroit, pour deux raisons que je vous livre telles quelles. Premièrement, Fouquet, comme moi, était surintendant des finances. C'est indubitable. Deuxièmement, la droite ne doit pas avoir le monopole du Fouquet. Alors j'ai tracé un tableau positif de mon client. Pourtant, il y a des points noirs, je ne peux pas le cacher. Mon client a un grave problème d'identité lié à son nom. Non pas son nom de famille, dont il est très fier, et qui le porte naturellement vers les choses de la culture. Strauss, comme les valses de Strauss, et Cannes, comme le festival de Cannes. Il a un problème avec son prénom, car en réalité, et tout le monde pourra s'en assurer dans le wouzou, il ne s'appelle pas Dominique Strauss-Kahn, mais Dominique Gaston Strauss-Kahn. Et ce prénom, il en a honte. Gaston, c'est pourtant un très joli prénom. Et pourquoi il ne le sait pas, toujours pas? Pourquoi DGSK se fait-il raccourcir en DSK? Alors après un long travail sur lui-même, il a réussi à trouver quelques raisons inconscientes d'une telle mutilation. Dominique Gaston, DG. D comme droite et G comme Gaston. Il a laissé tomber la gauche en laissant tomber le G. C'est un signal à la D, à droite. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, messieurs du jury, c'est un homme qui veut se reconstruire, un homme neuf qui veut se faire appeler à nouveau Dominique Gaston et récupérer la part gauche de lui-même. Il veut rejoindre le club très privé des gens qui ont quatre lettres à leur sigle. DSK souffre de ce complexe, il sera bientôt DGSK. Il veut être le président de tous les Français et de toutes les Françaises, surtout des Françaises. Aussi, je suis confiant dans ses chances de réinsertion. Il saura pratiquer le système D pour trouver le point G. Messieurs, merci.
Merci, Frédéric Pagès. Voilà. Alors, sur ces mots et à la demande des fumeurs et des assoiffés, nous allons suspendre la séance.
Bien qu'on nous dise en République qui tient encore comme autrefois la finance et la politique, les hauts gradés, les bons emplois qui s'enrichissent.
Merci à toutes et à tous. C'était la première partie du procès de DSK devant le tribunal des condamnés d'avance. Demain, deuxième séance. Nous retrouverons la suite demain. Montage Antoine Chao. Merci à Gérard Mordilla et François Ruffin que vous aviez reconnus. C'était les pro, J'ai un trou de mémoire. Mais le procureur et non pas les producteurs. Merci aux avocats de défense Jean-Marc Daniel et Christophe Claire, aux témoins et experts Gérard Filoche, Jacques Cossard, Philippe Cohen, Michel Husson, Anaël Verzo et Frédéric Pagès, aux musiciens Julien Hale et Denis Charol, ainsi qu'aux techniciens de Radio France pour la prise de son au théâtre de Jazet, Benoît Gégou, Benjamin Perru, Michel Gassic et Maï Tran. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 réclame.
Oh dis donc, t'as une petite mine.
C'est mon divorce. Déjà qu'entre mon ex-mari et mon ex-situation familiale, c'est compliqué. Alors avec une double déclaration de revenus à faire, je gère plus rien.
Pour ton ex-histoire d'amour, je sais pas, mais pour le reste, le plus simple, c'est encore Internet. Tu peux faire tes deux déclarations sans te déplacer.
Extra !
Mariage, PACS, divorce, décès d'un proche, changement de revenus. Déclarez sur impots.gouv.fr, même lorsque votre situation a changé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Excellent !
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
France Inter et La Colline Théâtre National présentent en alternance deux pièces d'Auguste Strindberg. Mademoiselle Julie et Créancier, mise en scène par Christian Schiaretti avec la troupe du TNP Villeurbanne. Tragédie naturaliste pour Mademoiselle Julie, tragicomédie pour Créancier, deux huis clos autour de la relation homme-femme. Dans les deux cas, un meurtre parfait. Retrouvez Mademoiselle Julie et Créancier jusqu'au 11 juin à La Colline Théâtre National et dans les émissions de France Inter.
À demain 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Ce n'était pas vraiment attendu. Les députés autorisent à leur tour la recherche encadrée sur l'embryon et les cellules souches. Ils s'alignent sur les sénateurs en commission parlementaire. Des sénateurs qui, il y a un mois, ont infligé un revers au gouvernement en décidant d'envoyer un signal aux chercheurs. Ce matin, un amendement de l'UMP visant à rétablir l'interdiction a été retoqué par 21 voix contre 19. Le projet de loi révisant les lois bioéthiques sera examiné à partir du 25 mai en séance publique. Plus de radars, des sanctions renforcées contre la vitesse, l'alcool et le téléphone au volant. Le gouvernement durcit l'arsenal de la sécurité routière. Après les mauvais chiffres de ces derniers mois, 10% d'accidents mortels en plus au premier trimestre par rapport à l'an dernier. Un dépassement de plus de 50 km/h était jusqu'à présent un délit en cas de récidive. Il le deviendra désormais dès la première infraction. Le gouvernement qui donne son feu vert à la réforme de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, dans un rapport remis aujourd'hui, le Conseil des prélèvements obligatoires qui dépend de la Cour des comptes estime qu'il est plus urgent de réformer l'impôt sur le revenu, un impôt qui, selon ce rapport, a vieilli et qui contribue de moins en moins à réduire les inégalités. Les retraités frontaliers en colère contre ce qu'ils appellent le racket fiscal allemand. Un millier de bénéficiaires de double pension franco-allemande ont manifesté devant le Parlement européen à Strasbourg. Ils ont travaillé une partie de leur vie en Allemagne et depuis plusieurs mois, le fisc allemand leur réclame de fortes sommes, parfois plusieurs milliers d'euros. Dans les Alpes-Maritimes, coup de théâtre dans l'affaire Iacono, Gabriel Iacono, le petit-fils de l'ancien maire de Vence. Il avait accusé son grand-père de viol. Christian Iacono a été condamné à 9 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Dans un courrier au parquet de Grasse, le jeune homme revient sur ses accusations. Il demande à la justice de reconnaître ses erreurs comme lui vient de le faire pour les siennes. Des milliers d'admirateurs ont assisté aux obsèques de Severiano Ballesteros, célébré dans son village du nord de l'Espagne. Le champion de golf est mort, vous le savez, ce week-end à 54 ans. Il est considéré comme le pionnier en Europe d'un sport dominé jusque-là par les Américains. Et puis c'est ce soir que débute le 64e Festival de Cannes. Après la cérémonie d'ouverture, ce sera à 20h la projection du dernier Woody Allen hors compétition, Midnight in Paris, avec entre autres Carla Bruni. Quant à Nicolas Sarkozy, il n'ira pas voir La Conquête, le film dans lequel Denis Podalydès raconte son ascension vers le pouvoir. Dans un entretien au magazine Télérama, le chef de l'État l'affirme, il ne verra pas ce film pour protéger sa santé mentale. Le narcissisme n'est, dit-il, jamais la bonne solution.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans l'heure. Aujourd'hui à Évreux, à la Halle des Expositions à 18h30. Et demain, toujours dans l'heure, à Alizay, à la Salle Les Alisiers, 18h30 également. À très bientôt.
Tous les jours, oui. À partir de 11h...
Si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Ah, pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106 avec Jack Lang et Catherine Ringer, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je suis pas du tout d'accord.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h.
La différence.
Il est 16h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bien sûr, nous allons évoquer le Festival de Cannes, mais pour que ça n'occulte pas toute manifestation artistique, je vais commencer par un concert qui réunit des artistes qui sont très très connus. Philippe Graffin, violoniste par exemple, plus connu en Angleterre que chez nous. Bah, c'est dommage, et puis ça va changer forcément. Gary Hoffman, fantastique violoncelliste, premier prix Rostropovitch, et Claire Désert, superbe talent, une pianiste aussi charmante que douée et musicienne surtout, c'est le plus important. Donc ces trois-là vont jouer ensemble dans le cadre d'une carte blanche à Philippe Graffin, à Salle Gaveau. C'est demain à 20h, toujours 45 rue La Boétie, dans le 8e. Et je vous propose d'entendre deux des artistes dans un trio avec piano de Chausson, compositeur qu'on connaît surtout par ce merveilleux poème pour violon et orchestre. On connaît moins cette pièce de musique de chambre. Ça reste à découvrir. Sa courte vie ne lui a pas permis, évidemment, de dresser, de tenir un long catalogue. Mais enfin, ça vaut le détour, la preuve.